Peut-être juste avant un autre week-end, je souhaitais vous faire un peu le point sur les données qui nous ont été présentées ce matin par l'Institut national d'excellence en santé publique, qu'on appelle l'INES, mais aussi celles qui ont été diffusées par l'Institut national de santé publique, là, qu'on appelle communément l'INES-PQ. Tout d'abord, peut-être juste quelques chiffres du jour. Aujourd'hui, en plein dans notre moyenne, là, 1055 cas, dont malheureusement 13 décès, un petit peu au-dessus de la moyenne dont on parlait hier. Puis j'aimerais en profiter là, en ce vendredi pour offrir mes sympathies aux familles des gens qui sont décédés particulièrement dans les derniers jours. Sur la question des hospitalisations, rappelez-vous qu'on est en hausse de 14 hospitalisations, mais avec la précision qu'on a donnée cette semaine, quand je vous donne, c'est plus 14 hospitalisations, mais c'est quand même ce qu'on appelle au brut, là, 59 entrées et 45 sorties. Alors, il faut juste penser qu'une journée comme hier, il y a 59 nouvelles personnes qui sont rentrées à l'hôpital. Alors oui, on dit que c'est plus 14, mais j'ai beaucoup apprécié les commentaires que j'ai eus de quelques médecins qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Puis je pense que ça a donné une précision encore plus importante comment notre système de santé est sollicité. Puis j'apprécie notamment les commentaires du docteur Lucier et de M. Vadeboncœur. Et encore une fois, je vous offre à tout le monde là, qui sont sur les réseaux sociaux, quand il y a des suggestions constructives de cette nature-là, de ne pas hésiter à les faire parce qu'on les prend... On les prend en compte, puis ça nous aide à mieux communiquer la situation. Une autre bonne nouvelle, hier, c'est quand même 29 000 tests. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui explique qu'on a monté un peu dans les cas, mais quand on roulait des fois à 1 000, puis qu'on avait 20 000 tests, mais là, on est à 1055, puis avec 29 000 tests, c'est quand même une très bonne nouvelle, ça aussi. Alors, donc, j'essaie de mettre ça en perspective pour dire que ça montre, en fait, là, ce que ça montre, c'est que les efforts donnent des résultats. Mais encore une fois, je veux être prudent parce que si on veut maintenant que les cas diminuent puis que le virus fasse le moins de victimes possible, ben, il faut continuer dans ce sens-là. Puis moi, je dirais, là, s'il y a un message avant de rentrer dans le détail des études, là, c'est qu'en fait, on suit notre plan de match. On est où on voulait être à ce moment-ci, en milieu de mois, mais je vous dis, la partie n'est pas gagnée. Fait que c'est ça aujourd'hui le grand message. Puis je vais prendre les deux études pour montrer un peu le point. Je n'irai pas dans le détail des études parce que je pense que les journalistes qui sont avec nous aujourd'hui ont eu la chance d'avoir le briefing technique avant. Là, fait que je vais aller dans le résumé. Puis s'il y a des questions, bien, je répondrai avec le docteur Arruda aux questions. Commençons par l'étude de ce qu'on appelle l'INES, là, l'Institut d'excellence. D'abord, premièrement, les projections de l'INES, je vais vous dire que je pense que c'est la bonne nouvelle parce que l'INES maintenant publie cette analyse-là à toutes les semaines. Hein? Et je pense qu'il y a eu une amélioration des résultats ou de l'étude par rapport à la semaine dernière. Puis prenons l'exemple de Montréal. Juste spécifiquement de Montréal, selon les projections qu'on avait, je suis regardé mes notes, là, mais en fait, c'est ça. Dans les projections qu'on avait de la semaine dernière, on envisageait qu'on atteignait la limite des hospitalisations pour la région de Montréal vers le 6 novembre. Mais je vous avais expliqué que les résultats de la semaine passée étaient basés sur les mesures au 3 octobre. On était juste au début des mesures. Mais les Québécois ont fait quand même de grands efforts depuis le 1er octobre. Et ces efforts-là, depuis quelques semaines, ben en fait, ce que l'INES nous prouve dans l'étude qui a été publiée ce matin, c'est quand ils ont remis les études là, que vous voyez à l'écran, les Québécois ont réussi à changer la tendance qu'on voyait la semaine dernière. Fait que ça, pour moi, là, c'est un exemple concret de ce qui peut arriver quand on met nos efforts ensemble. Alors ça, je pense que les données qui sont présentées montrent maintenant, puis je le dis encore avec beaucoup de prudence, que notre capacité hospitalière se serait stabilisée avec les efforts des dernières semaines. Mais je vous le dis, elle est encore fragile, mais au moins, elle s'est stabilisée. Ça, je pense que c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, je suis toujours un peu tannant. Il ne faut pas changer notre comportement parce que ça commence à bien aller. On a dit qu'il fallait donner un coup jusqu'à la fin d'octobre. Ce n'est pas parce qu'on pense que ça va mieux puis qu'on voit les résultats qu'on a réussi à stabiliser qu'il faut arrêter. Mais je vous dis juste, prenons la bonne nouvelle, ça a l'air de fonctionner. Fait que ça, je pense que c'est important à retenir. Bon, ça, je dirais, en gros, c'est les résultats de l'INES. L'Institut national de santé publique, l'INESPQ, elle a présenté, puis ça, je trouve ça, pas que la première n'est pas importante, la première étude, mais on l'a régulièrement. Celle de l'INESPQ qui vous a été présentée, puis que je dis qui est maintenant disponible sur leur site web, j'inviterai les Québécois à prendre le temps d'aller la voir, parce que on se parle de la COVID tous les jours, c'est peut-être important des fois de prendre un petit peu de temps puis d'aller voir. Mais il y a trois scénarios dans cette étude-là, puis je vais vous les résumer, parce que ce que ces scénarios-là montrent, là, puis pour ceux qui voient à l'écran, là, il y a l'air d'avoir des grandes courbes, puis ça a l'air bien compliqué. Moi, je trouve ça bien intéressant, mais en fait, il y a à peu près juste le docteur Arruda et moi qui trouvaient ça intéressant, et peut-être le premier ministre. Mais en tout cas, je dis ça comme ça, parce que ce que je veux ressortir du premier commentaire de l'INESPQ, c'est que si on n'avait pas mis en place les mesures qui ont été mises au mois d'octobre, ben l'impact sur les hospitalisations puis notre réseau de la santé, les décès, aurait même dépassé, malheureusement, les résultats de la première vague. C'est ça que le premier grand commentaire. Puis, je vous dirai pas, je vous l'avais dit, mais je vais vous le dire quand même. On s'est vu ici, là, le 27 ou 28 septembre, puis je vous avais dit, si on continue comme ça, on va frapper un mur. Vous vous souvenez de ça? On était exactement dans cette salle-ci. Et je pense que non seulement la santé publique, puis je veux vous remercier, Dr Arruda, parce que c'est pas toujours facile, votre travail, mais vous avez fait des recommandations assez difficiles à la fin septembre qui ont amené les mesures du 1er octobre. La gestion de crise, la cellule de crise pilotée par le premier ministre a pris ces décisions-là, mais je suis vraiment content qu'on les ait prises, Dr Arruda. Ont été difficiles, les choix qui ont été faits, mais au moins, on a vu que si on ne les avait pas faits, et c'est confirmé par l'étude, là, vous le verrez quand vous aurez la chance d'aller voir les scénarios. La deuxième conclusion, c'est que si les personnes en doutaient, puis ça revient un petit peu à ce que l'INES disait tout à l'heure, c'est que si les personnes doutaient que les sacrifices n'en valent pas la peine, bien là, l'INESPQ confirme exactement la même chose, puis c'est deux organismes complètement indépendants, que les progrès, que les efforts que les Québécois ont faits, ça a un impact réel sur la progression du virus. C'est ça qu'on voit dans l'étude. On le voit clairement, là, puis quand vous aurez la chance de regarder, là, puis là, je ne veux pas imiter le docteur Arruda, là, mais le scénario 1 que j'expliquais tantôt, là, on est ici en ce moment à 1000 cas, puis dans le scénario 1, là, si on n'avait rien fait, là, ça montait comme ça. C'est ça que le scénario 1 dit. S'il n'y avait pas eu les mesures du 1er octobre, on était comme ça. Le deuxième scénario qui ont dit, on a vu les mesures, rappelons-les, là, les mesures pour toute la question de fermeture des bars, des restaurants, vous les connaissez, là, ce qu'on a fait avec des décisions déchirantes pour le sport, tout ce qu'on a mis en place. Ça, là, ce que ça a fait, là, c'est que ça a fait passer la courbe à peu près comme ça. Puis à peu près comme ça, vous le verrez, là, vous aurez la chance, puis je pense que les journalistes qui ont vu le briefing technique. Pour moi, on n'est pas sorti du bois avec ça, là, mais il y a quand même, on est dans une zone où les hospitalisations sont quand même gérables. Puis c'est à peu près ce que le premier rapport tantôt de l'INES disait. Bon. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas encore parfait, puis on a encore un problème. Bien, c'est ça que l'INESPQ dit clairement, puis on pourra peut-être aller plus dans le détail avec vos questions. La troisième conclusion, puis c'est ça que je voudrais que les gens comprennent aujourd'hui, puis mon défi, c'est de pas aller dans le détail, mais vous donner quelque chose de très clair, c'est qu'une réduction supplémentaire des contacts de 25 %, une réduction supplémentaire des contacts de 25 %, ferait qu'on pourrait non seulement stabiliser, mais d'être dans une situation presque idéale. Bon, vous allez me dire, ça veut dire quoi, 25 %? Pour ceux qui ont la chance de l'avoir vu, l'étude, ou qui iront voir, vous allez voir, là, je ne me souviens pas, mais c'est à peu près dans le milieu du rapport, dans la section 3 que je viens de référer. Puis je pense que j'ai déjà éludé à ça dans une présentation précédente, là, il y a quelques jours. Avant la COVID, les Québécois avaient en moyenne, là, je ne dis pas si tout le monde est pareil, mais 7 à 8 contacts par jour. Souvenez-vous, je vous avais dit ça. Puis quand on a confiné mars-avril, on a confiné, donc les gens n'avaient plus de contacts. Ils restaient à la maison, puis c'était juste les services essentiels. On est baissé à peu près à 3 contacts par personne. Puis au fur et à mesure qu'on a déconfiné dans les derniers mois, là, rappelez-vous, quand on est à la fin de l'été, les gens sont revenus des vacances, de la construction, un peu avant, on avait ouvert les bars. En tout cas, tout le déconfinement qu'on a fait par étapes, je vous dirais qu'aujourd'hui, on est revenu à peu près à entre 5 à 6 cas en moyenne par semaine. Donc, on part de 7-8, on descend à 2-3 avec le confinement, puis avec les mesures, on est remonté à 5-6. Alors, je reviens, excusez-moi, ça a été long, là, mais quand on vous dit qu'on pourrait avoir encore plus d'impact qu'on a en ce moment, ça serait d'éliminer, on va appeler ça un contact important, là, 1 sur 5. 1 sur 5, 1 sur 4, ça ferait une grosse différence. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dr. Arruda me l'explique à moi, là, pour que je comprenne, là? On dit un contact important, c'est vous êtes à 2 mètres de moi, on fait la bonne chose. Mais quand je vais rencontrer quelqu'un pour plus que 15 minutes, puis c'est encore plus si c'est quelqu'un que je connais pas, c'est quelqu'un où, par exemple, j'avais pas mon masque parce que je marchais sur la rue, ça, c'est le genre de contact qui sont les plus dangereux, la minute qu'on ne l'a pas prévu, puis que ça fait un 15 minutes. Vous me suivez? Si les gens pouvaient avoir en tête dans les prochaines semaines de dire que c'est ce contact-là, une fois, parce que la moyenne des gens, c'est ça. Alors, si on pouvait éliminer 1 contact sur 5 dans les prochaines semaines, ça ferait une très grosse différence, et c'est ça qui est démontré très, très clairement dans l'étude. J'en ai trop parlé. Je sais qu'on se répète, mais je pense que c'est important de vous présenter ces projections-là, qui sont indépendantes, qui sont faites par les deux organismes, là, et qui sont faites par des experts. Moi, j'ai eu la chance avec le Dr. Arruda d'accepter de voir ces présentations-là. Puis c'est ce qu'on va faire maintenant. On va les faire évoluer régulièrement pour vous donner cette information-là. Et je vous dirais que cette évolution-là, pour moi, est vraiment en ligne avec ce qu'on voulait faire. Et je vous dirais que, en fait, si je peux conclure, je dirais rapidement, je reviens toujours à la même chose. C'est chacun de nous qui peut avoir cette différence-là. Là. Je pense que les gens comprennent bien l'impact qu'on veut envoyer. Puis je voudrais envoyer un message d'encouragement aux Québécois pour terminer, que les données qu'on voit aujourd'hui démontre clairement que les sacrifices qu'on fait depuis le 1er octobre, ils fonctionnent. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait. J'aimerais ça qu'on soit un petit peu plus bas. Mais ça fonctionne, on a stabilisé. Et je le redis, on va suivre ensemble notre plan de match. On n'a pas encore gagné la partie, mais si on continue à faire les efforts qu'on fait, puis en persévérant, parce qu'il ne faut pas lâcher, là, pas au moment où on est rendu. Moi, je suis certain qu'on va arriver à casser la vague, puis on vient de se le prouver, puis on va sauver encore plus de vie, puis on va être capable d'arrêter d'annoncer les décès qu'on annonce là depuis quelques jours particulièrement. I'll say a few words in English.
OK, la partie n'est pas gagnée, n'est-ce pas, Denis Couture?
Non, les efforts donnent des résultats, on suit le plan de match, on voit les résultats sont là, mais c'est pas gagné, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé, Christian Dubé, au début de ce point de presse. Il est revenu sur les études dont on parlait d'ailleurs, Bernard, tout juste avant que la conférence de presse commence, là, de l'Institut national de la santé publique du Québec. Il dit, il regarde.
Si on n'avait pas pris mesure, là, comme tu le disais tout à l'heure, ça serait dans le plafond.
Ouais.
Enfin, on aurait dépassé le nombre de décès de la première vague.
Oui, il dit que les projections nous disent ça, que la situation serait revenue au pire de la première vague. Et ça, c'est la première courbe, celle où, si on n'avait rien fait, là, au début octobre, là, ce défi 28 jours jusqu'au 28.
Exact.
Et il dit, dans cette conférence de presse, se basant sur les courbes qu'il nous a montrées, que les efforts ont un impact réel.
Oui.
La courbe du deuxième scénario, c'est ce que ça nous dit. Et il y a une
On a réussi à stabiliser, dit-il.
Oui.
On a réussi à stabiliser la situation. Puis là, il arrivait avec la troisième courbe où il dit, si on réduisait...
Le 25%.
Un contact important par jour, là, un contact significatif, là, mettons un inconnu qu'on rencontre avec lequel on jase 15 minutes sans masque.
À moins de 2 mètres.
À moins de 2 mètres, là, il dit, là, vous vous mettez à risque. Si on était capable, tous et chacun d'entre nous, d'avoir un de ces contacts significatifs en moins chaque jour.
Ben là, on aplatit.
On aplatit solide, là.
Oui, oui. Alors, ce sont les trois scénarios sur lesquels il se base. Et il a dit une autre chose qui est assez importante, le ministre, c'est qu'on parle de 14 hospitalisations de plus aujourd'hui. Hier, on parlait de 11, ou en tout cas, bon, on parle d'une dizaine à une vingtaine d'hospitalisations de plus. Mais dans la réalité, dans la vraie vie, là, c'est qu'hier, ben, il y a eu 59 entrées à l'hôpital et 45 sorties.
De là,
le 14.
Le solde de 14.
Oui.
Ouais, non, mais ça, j'étais content qu'il explique ça, moi.
Ouais.
J'étais très content qu'il explique ça.
Parce qu'on se dit 14, bon,
c'est pas super. C'est pas super.
En fait, c'est 59.
C'est ça.
Il y a des sorties aussi, 45 sorties.
Oui, exact.
Alors, c'est ce qu'a dit le ministre. Il a parlé du nombre de cas, du nombre d'hospitalisations de la journée d'aujourd'hui. On parle de 1055 cas. On suit la tendance des derniers jours. Pour l'instant, là, on est toujours dans les 1000 et ça se tient à cela. C'est ce que nous a dit le ministre Dubé.
J'ai l'impression que son point de presse d'aujourd'hui, là, il sait qu'on s'en va dans une fin de semaine, là, puis là, il veut nous mettre les... il veut nous donner le score, puis il veut juste nous rappeler que notre destin nous appartient. On l'a entre nos mains.
C'est que ça donne quelque chose.
Oui, c'est ça. Les efforts qu'on fait ne sont pas vains.
Voilà.
Ça donne des résultats, puis si on ne fait pas attention, bien, regardez ce qui pourrait nous arriver. Puis si vous faites attention, et si vous faites encore mieux que vous avez fait depuis le début octobre, ça pourrait être encore pas mal plus spectaculaire comme résultat.
Et il y a des études...
Il est comme un coach dans une chambre de joueurs de hockey.
Ouais.
Hein? Il fait son speech entre la période, lui-là, là. Entre la première et la deuxième.
Oui, c'est une étape qui est quand même assez importante parce que là, on est à mi-chemin dans cette période de 28 jours. Hein. On est le 16 octobre. Hier, c'était vraiment le milieu.
Oui,
On a parlé de ce qui s'en vient. Et on va continuer avec la santé publique.
Puis il a donné une petite tape dans le dos à Arruda. Hein, t'as remarqué, du monsieur Arruda qui nous a recommandé des décisions difficiles. Bravo.
C'est pas une job facile.
C'est pas une job facile, mon Horatio. Lâche pas la patate. Alors, écoute, ils font équipe, hein? Ils font équipe. Alors, non, mais c'est bien. Écoute, eux autres, là, ils vont quasiment vivre, là. C'est quasiment ils vivent quasiment dans le même. Dans la même pièce, là, au moins jusqu'à Noël, ces deux-là. Là. On s'en va aux questions.
Bonjour, M. Dubé. Les bonnes villes du 98.5 FM.
Ah,
ici, du côté de ça. Une question à propos des écoles. Il semble y avoir un peu de confusion, là. Lorsqu'il y a un cas positif dans une classe, que ce soit au primaire ou au secondaire, dans certaines écoles, dans certaines régions, on ferme la classe automatiquement, on renvoie les enfants, les étudiants, les élèves pour 14 jours à la maison. Dans d'autres écoles, il y a un cas positif. Évidemment, la personne positive reste à la maison, on avise les parents, mais la classe demeure ouverte. Il y a de la confusion peut-être chez les directeurs d'école, chez les parents. Quelle est la règle? C'est quoi la règle à respecter dans les écoles lorsqu'il y a un cas positif dans une classe?
Je vais laisser notre grand spécialiste répondre, puis au besoin, je compléterai. Mais je pense que c'est bon que Dr Arruda fasse le point là-dessus.
Chaque cas est un cas individuel. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de guide comme tel, mais ça va dépendre si l'enfant a été présent pendant qu'il était contagieux ou pas dans la classe. Ça va dépendre de l'analyse de la classe. Est-ce que c'est des gens qui ont été en distance? Ça va dépendre des facteurs de risque de certains enfants dans la classe. Fait que je comprends là, les parents d'être exaspérés, particulièrement quand on a l'impression qu'ailleurs, la classe continue et puis que chez nous, la classe est fermée. En théorie, il y a une analyse qui est faite. Habituellement, les gens à risque... Puis là, des fois, il y a des questions d'organisation aussi qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est un diagnostic qui est fait avec le directeur de santé publique, et l'équipe de santé publique et le professeur. Des fois, c'est plus simple. Ça peut être plus simple pour des raisons X, Y, Z d'envoyer tout le monde chez eux en attendant d'avoir des tests de dépistage, etc. Mais ça dépend vraiment de l'histoire. Ça dépend s'il y a eu plus qu'un cas dans la classe, un seul, quand est-ce qu'il l'a rattrapé. Tout ça rentre en ligne de compte. Si c'est arrivé avant la fin de semaine, je ne sais pas si vous comprenez, tout ça rentre en ligne de compte parce que c'est une évaluation du risque de cette classe-là.
Et M. Dubé, bon, vous demandez aujourd'hui aux Québécois de faire un effort supplémentaire d'éliminer un contact sur quatre ou un contact sur cinq quotidiennement. Il y a beaucoup de gens bon, qui, sans restriction ou sans consigne précise, ne respecteront pas ça. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à l'imposition de mesures supplémentaires d'ici la fin du mois pour que les gens respectent ça?
Moi, je suis, puis je pense à l'image de notre premier ministre, je suis plus dans un scénario constructif que négatif. Je pense que moi, en tout cas, je suis vraiment épaté là, qu'on ait réussi à... Je ne veux pas qu'on se trouve trop bon parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais regardez ce qui se passe. Le premier ministre là, a donné des exemples hier là, de la progression dans certains pays, là, des pays qu'on connaît bien, la France, l'Angleterre. On peut regarder les États-Unis, regarder la progression qui se fait en ce moment, qu'on ait réussi là, comme Québécois, comme peuple, de dire qu'en dedans de 2 à 3 semaines, on puisse stabiliser cette tendance-là. Moi, je pense qu'on a fait tout un effort, mais on a payé le prix. Là. Il y a des gens qui en payent un prix au niveau de leur commerce, de leur vie. Donc, moi, je suis... Et c'est pour ça que je pense que quand les spécialistes nous ont dit, écoutez, vous avez fait les bonnes choses, mais on pense qu'on pourrait faire plus, la première réaction qu'on a, c'est des mesures additionnelles. Puis je pense que c'est pas là qu'on veut aller. Et c'est pour ça qu'on a eu ces bonnes discussions-là depuis plusieurs jours. Le message qu'on veut dire, peut-être que si même, là, puis je ne veux pas revenir, c'est bingo, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, là. Ça vient me chercher un peu, respecter les mesures sanitaires, ça en est un contact de moins, là. Les 250 personnes qui étaient dans la même salle pour jouer au bingo, là, il y en a eu des contacts dans cette salle-là. Là. Si les 250 personnes qui étaient là avaient pu éviter ces contacts-là, cette journée-là, là, imaginez-vous l'impact que ça va avoir sur ce que je viens de vous dire. Alors, ce n'est pas une mesure supplémentaire. Puis j'apprécie votre question. Là. C'est exactement ça, de bien suivre les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Ça veut dire une réduction du nombre de contacts. Alors, je pense que c'est ça l'équilibre qu'il faut faire. Puis moi, je donne aux Québécois la même chance qu'on leur a donnée il y a quelques semaines de nous prouver qu'on était capable. Ils nous l'ont prouvé. Continuons. C'est un peu ça que je dis. Puis, Dr Arruda...
Oui, je voudrais ajouter une chose. Ce que ces graphiques nous montrent là, c'est le pouvoir de la réduction des contacts. Moi, en tout cas, moi qui en parle, etc., de voir les projections en disant si tous les Québécois diminuaient... Puis là, quand on parle de contact, on parle de contact. Là. Vous savez, là, puis dans notre vie personnelle, même moi, je porte le masque. C'est très facile de me rapprocher de quelqu'un quand je suis dans une situation qui n'est pas professionnelle. Ici, là, on me dit de m'asseoir ici, c'est facile. Là. Mais dès qu'on se retrouve dans des situations non professionnelles, non au travail ou autre, c'est très facile de rentrer en contact avec quelqu'un en bas d'un mètre. Parce que 2 mètres, c'est loin. Fait que si tous les Québécois diminuaient un contact, mettons, parce que à peu près, un contact, là. La somme de ces petits contacts-là qui génèrent des cas a un impact sur nos courbes. C'est extraordinaire, là. On n'est pas en train de dire qu'on reconfine les gens. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas, même à la limite, moi, je rêve de réouvrir des secteurs d'activité qui ne génèrent pas des éclosions. Mais c'est un effort collectif. Mais le pouvoir de la réduction des contacts, là, on le voit dans ces courbes-là. C'est voilà. Impressionnant. Exactement. Même moi, là, ça m'a aidé à dire bien, c'est ça qu'il faut faire.
Le pouvoir de la réduction des contacts, Luc Lavoie.
Oh là là!
Non, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant de la manière avec laquelle ils nous ont expliqué ça aujourd'hui.
Mais t'as bien résumé ça en disant c'est comme le coach de hockey entre la première et la deuxième. Là. Ça ressemble un peu à ça.
Oui.
Mais moi, je vais te faire un commentaire auquel tu t'attends pas. Puis quand tu vas avoir entendu le début, tu vas dire « Ah! » Je le reconnais. Moi, je découvre, à travers cette pandémie, l'existence de toutes sortes de patentes. L'INES,
oui.
L'INSPQ.
Oui, oui.
Et là, évidemment, ils sont indépendants. C'est comme ce qu'on disait tantôt à propos de Prud'homme, puis du bon. Ils sont indépendants, eux autres, là, mm-hmm. Je ne sais pas exactement c'est qui est là. Ils doivent avoir un bureau en quelque part, là, avec une réception, puis le monde a des cellulaires, puis des voitures. Ils doivent avoir des médecins, ils doivent avoir des gens, des professionnels de la santé. Mais eux autres, ils poussent du papier, puis ils font des rapports. Puis des fois, ça tombe bien, le gouvernement trouve que c'est un bon rapport, je vais en parler beaucoup. Une autre fois, le gouvernement n'aimait pas le rapport, il a montré un peu sa mauvaise humeur. Mais c'est quoi ces bébelles-là?
T'es bien radoteux.
Qu'est-ce qu'ils font?
Bernard,
pourquoi est-ce que ces médecins-là qui sont en train de pousser du papier sont pas sur le terrain en train d'aider à combattre la pandémie? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Combien il y a de monde là-dedans?
Mais t'es-tu assez des démagogues?
Je suis pas démagogue. La machine d'État ne livre absolument rien à part des rapports puis des bebelles puis des... J'ai jamais entendu parler de l'INES de ma vie. La pandémie. Je n'avais jamais entendu parler. Il y a combien de monde là-dedans? Combien me coûte par année, ce gang-là? Là?
Je siégeais sur la commission parlementaire qui l'a créé, l'INES. Si tu t'intéresses au système de la santé, tu sais c'est quoi l'INES, puis tu sais c'est quoi l'INSPQ.
Ben, je le savais pas, puis je pense que quelqu'un est plutôt informé.
Regarde, là.
Un autre bureaucratie, un autre bébelle.
Ben oui, mais c'est une bureaucratie. C'est une bureaucratie.
Une coupe de micro-ondes, évidemment, ça prendrait ça aussi. Ça prend des stationnements quand même, là. T'sais, puis dépendant
et
du
là,
niveau
tu
où ils se trouvent dans la fonction publique.
Là, tu te fais plaisir. Tu vas générer des clics. Ils vont t'écrire, Monsieur Lavoie, vous avez donc raison.
J'espère qu'ils vont dire ça parce qu'on est tanné de cet appareil d'État qui n'est pas capable de rien livrer.
Depuis le début, ils sont pas capables. À quoi ça sert?
Ben, je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais, ça me servait à rien avant. Là, ça sert à quoi? À justifier le gouvernement?
Ça sert à te faire dire que les efforts qu'on a faits depuis les deux premières semaines d'octobre nous ont permis d'éviter le pire. C'est pas pire, ça?
Ça coûte cher pour se faire dire ça. Il doit au moins se le faire dire autrement.
Ben oui, mais on se le fait dire par
des
scientifiques.
Qu'ils montrent des statistiques qui montrent que ça marche. Comment ça se fait que les CHSLD ont donné tant de victimes?
C'est épouvantable. C'est épouvantable. Tu voudrais vivre dans une république de bananes.
Non, pas du tout. J'aimerais vivre dans un État où on dépense notre argent de façon intelligente. Puis quand on a des ressources de type médical, professionnel en pandémie, t'es mis sur le terrain. T'arrêtes de les laisser dans leur bureau avec leur petite réunion.
Tu admets toi-même que tu sais même pas.
Congé de maladie,
tu sais même pas de quoi tu parles. Tu sais même pas ce que ça veut dire, Inès. C'est moi qui te l'ai appris l'autre jour.
Tu sais pas de quoi tu parles, saviez-vous qu'est-ce que c'était l'INSPQ puis l'INES avant la pandémie?
Mais Luc.
Oui, juste, Bernard. T'aimes ça, toi, des bureaucrates.
J'aime pas ça, mais je sais à quoi ils servent dans ce cas-ci.
Ben, moi, je ne sais pas à quoi ils servent. Tu me l'as pas encore dit.
Informe-toi.
Mais non, mais c'est là. T'es là pour m'informer. T'étais dans la commission parlementaire. Tu dois le savoir.
L'INES, c'est un institut qui a été créé pour étudier les meilleures pratiques en matière de santé et services sociaux pour faire en sorte que quand il y a quelque chose qui va bien, que le reste du système l'adopte. Puis pour ce qui est de l'INSPQ, c'est un institut indépendant à la santé publique, comme le dit son nom. Bon, alors tu pourrais décider que ça sert à rien, puis on scrape ça, mais à ce moment-là, tu te plaindrais qu'il manque d'informations, puis au début de l'émission, tu chiolais qu'on sait pas ce qui se passe, puis ils nous informent pas dans le cas de l'histoire à Prud'homme.
Mais là, tu me réponds, il y a combien de monde à l'INES qui travaille là? Il y en a combien à l'INES?
Va voir l'organigramme, Luc, informe-toi.
J'ai été le voir l'autre fois, j'en revenais pas.
Va voir l'organigramme.
Écoute.
Va voir l'organigramme, puis tu nous en parleras à 14h.
J'ai envie de voir sur le terrain.
Va voir l'organigramme. Puis tu nous
J'aimerais
en parleras
ça les voir
à 14
sur le terrain en maudit train de combattre la pandémie.
T'es un maudit boqué, la voix.
Et toi aussi,
on s'en va à pause.
Ça,
on s'en va à pause. À pause.